Radio Kapi. Oh, Kapi.
Information de première ligne ce dimanche, c'est tout d'abord les nouvelles provenant de la ligne des fronts. Des affrontements se sont poursuivis hier dans la soirée à Kanyamaoro et trois antennes dans les groupements de Kibumba et de Buumba. Ce dimanche, il est signalé une forte tension. Ils ont besoin d'une définition d'une nouvelle politique salariale dans le secteur public du pays. Les enseignants se sont exprimés hier samedi ici à Kinshasa lors d'une réunion de l'Assemblée générale de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Message à suivre dans ce journal. Fanny Minesi, directrice de l'ASBL Les Amis des Bonobos ABC, intervient en fin de ce journal comme invitée. Elle s'exprime sur le prix TASC pour la conservation en Afrique que vient de recevoir sa structure à Londres en Grande-Bretagne ce samedi. Mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à Radio Kapi pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Nord Kivu, la situation reste tendue et volatile ce dimanche dans la zone de Kibumba, territoire de Nyiragongo. Hier samedi, des affrontements à l'arme lourde jusque tard dans la soirée avaient opposé l'armée congolaise, les groupes armés locaux ainsi que les rebelles du M23 et leurs alliés. Les belligérants sont toujours en alerte. D'autres précisions avec Bernard Denyangi.
D'intenses combats se sont poursuivis jusque tard dans la soirée hier samedi. Dans la partie ouest de l'axe Kanyamaoro et trois antennes, dans le groupement de Kibumba et de Buumba. Cette zone de combat est localisée essentiellement dans le parc national de Virunga, au nord de la ville de Goma. Plusieurs sources civiles et sécuritaires précisent que les forces armées font recours aux grands moyens, y compris les attaques aériennes, pour contenir les rebelles et empêcher leur tentative de déborder les positions des FARDC par le parc pour débarquer dans la ville de Goma. Jusqu'à présent, nos sources précisent que les lignes n'ont pas bougé suffisamment. Les rebelles occupent toujours la commune rurale de Kibumba jusqu'au niveau de trois antennes. Certaines sources proches des groupes armés locaux parlent d'un renforcement des positions des rebelles à Kibumba par des présumés militaires de l'armée rwandaise. Ce dimanche matin, ces sources indiquent, sans plus de détails, que des combats sont toujours en cours dans cette partie ouest de Kibumba en profondeur. Dans le parc national de Virunga. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Sud Kivu, commémoration ce 29 octobre 2023 des massacres de Bukavu. Il s'agit de commémorer l'assassinat le 29 octobre 1996 de l'évêque de Bukavu, Mgr Christophe Muzihirwa et ses collaborateurs. 27 ans après, les victimes réclament justice, réparation et garantie des non-répétitions. Des dizaines de personnes vêtues de noir ont marché depuis l'hôtel de ville de Bukavu jusqu'à la place dite Muzihirwa au centre-ville de Bukavu. Un extrait de leur déclaration dans cet extrait choisi par Emmanuel Elamegi.
Nous, population du Sud Kivu, venons vers vous exprimer notre douleur interne et souffrance physique liée aux pertes atroces et prématurées de notre arraché à la vie lors de l'entrée de la AFDEL, RCD, Kundabatware, Mutebusi et les autres. Cette journée du 29 octobre est une journée noire pour la population de Bukavu. À la même date, le Sud Kivu avait perdu une bibliothèque, un baobab à la personne de Mgr Christophe Muzihirwa, sauvagement assassiné à Nyawera, avec tous ceux qui étaient avec lui. Les survivants de toutes les atrocités n'ont jamais bénéficié de la justice transitionnelle ou justice judiciaire. Cette date du 29 octobre que nous commémorons est un signe d'un deuil jamais levé, tout en réitérant notre gratitude pour les efforts que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a déjà fournis pour cette cause. En créant Fonarev, nous vous exhortons, Excellence, afin que pareille inhumanité ne se reproduise plus jamais à travers la RDC.
Les enseignants, membres des syndicats de la Synergie, ont appelé ce samedi le gouvernement à définir une nouvelle politique salariale dans le secteur public du pays. Ils ont lancé cet appel lors de leur assemblée générale ordinaire tenue dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Ces syndicalistes admettent que l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants est gage de la réqualification du système éducatif congolais. Leur porte-parole a soutenu que sans un salaire digne et soins de santé appropriés, il est difficile de prétendre à une éducation publique de qualité en RDC. Les propos de Jean Bosco Pounan recueillis par Blaise Nungala Mayanda.
Les enseignants réunis à l'Assemblée générale demandent au gouvernement d'éclater pour besoin de transparence l'enveloppe de fonctionnement et primes de gratuité et de payer aux enseignants du primaire 80 000 francs congolais de primes de gratuité telles que libellées sur les états de paye. De privilégier les paiements des enseignants du secondaire quant au fonds d'appui, de convoquer les états généraux de l'inspection générale de l'enseignement, toutes affaires cessantes, pour requalifier et redynamiser ces missions, de régulariser la situation des enseignants retraités injustement, car nombreux sont en train de mourir à la suite de la précarité leur imposée. Au Parlement, d'interpeller les ministres de l'EPST sur la gestion controversée de l'examen d'État 2023 et la gestion caporalisée de l'inspection générale de l'enseignement.
À Béni, une centaine d'enfants handicapés d'une vingtaine d'écoles primaires de la place ont bénéficié ce samedi de kits scolaires, dont de l'organisation Agence Congolaise pour la Promotion des Droits des Personnes Handicapées, ACPDPH. Une satisfaction pour les responsables des écoles que fréquentent les enfants handicapés. Ces derniers suggèrent à l'organisation donatrice de songer à d'autres enfants vulnérables qui ne sont pas handicapés. Marc Marofimbo pour des précisions.
Ce sont des kits scolaires ainsi que des sacs à dos. Au nombre des écoles ciblées figure aussi l'école primaire Kisenge située dans les quartiers Kassavignol en commune de Rwenzori. Une école où l'enseignement primaire est gratuit et qui encadre plusieurs enfants handicapés. Pour son directeur, c'est un ouf de soulagement car la situation que traversent les parents de ces enfants est déplorable. Le révérend frère Mouindo Kabwana Kora, directeur de l'école primaire Kisenge.
Nous remercions grandement l'ONG pour cet appui et nous les recommandons de songer aussi à d'autres enfants vu que la situation que nous traversons dans la région semble être difficile pour les barras.
Les enfants handicapés ont aussi droit à l'éducation et ne doivent pas être sujets à la marginalisation, a dit pour sa part Emmanuel Katiagoulou de l'ACPDPH pour expliquer les motifs de leur donation.
Les enfants handicapés, c'est une catégorie des enfants qui sont marginalisés, qui sont discriminés à Ville de Béni. Ils ont un problème d'accès à l'éducation sur base de l'égalité avec les autres. Ils n'ont pas cette chance-là de jouir de ces droits à l'éducation comme les autres.
Signalons que cette donation aux enfants handicapés par l'ONG ACPDPH a bénéficié aussi du soutien matériel du diocèse de Butembo Beni. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité dans la province du Maniema. Comme vous le savez, le mois d'octobre, 10 mois rose dédié à la lutte contre le cancer du sein. Le club des médecins de cette province est en pleine campagne de sensibilisation des communautés, surtout les jeunes filles, sur comment se préserver de cette maladie. Docteur François Diboué est membre de ce club. Il nous explique au micro de Florence Kizalunga.
Les femmes, nous aimerions que toute la communauté soit informée par rapport à cette maladie. Notre communication est beaucoup plus centrée sur les dépistages parce que cette maladie dit, quand elle est connue tôt, la prise en charge, elle est faisable. Parce que si elle est connue tardivement, cette maladie donne déjà des métastases. Là, ce sont des complications et la mort imminente peut être réalisée. C'est pourquoi nous nous sommes dit, il faudrait parler à ces jeunes filles pour que si elles sont informées par rapport à cette maladie, elles peuvent s'encheminer dans une structure sanitaire pour une prise en charge.
Information en plus bref. La Commission électorale nationale indépendante annonce dans un communiqué publié hier samedi la publication de la cartographie des bureaux de vote. La CENI précise que la cartographie publiée est disponible dans les antennes ainsi que sur son site web www.ceni.cd. Les électeurs, candidats à partis et regroupements politiques ainsi que les témoins et observateurs ont la possibilité de visualiser la localisation des centres de vote et bureaux de vote par province, ville, territoire et par secteur chefferie et commune. La CENI annonce aussi à l'opinion publique que les travaux relatifs à la production de l'atlas électoral sont en cours. Dans le Kassai oriental, cas d'intolérance politique sur la ville de Mbujimayi. La permanence du parti politique lumumbiste située sur l'avenue Inga dans la commune de Dibinda a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi par les personnes non autrement identifiées. C'est hors la loi, ont déchiré quelques effigies des représentants de ce parti politique et ont emporté d'autres. Ils ont également emporté quelques chaises en plastique et autres biens de valeur de ce parti politique. Le secrétaire national de ce parti politique déplore ces actes et souhaite que des enquêtes sérieuses soient menées pour identifier ces personnes. Docteur Joseph Kalambaye a été joint au téléphone par Esther Dalafina.
Nous nous sommes victimes d'un acte de barbarie. Des hommes non nettement identifiés ont saccagé notre siège, notamment. Ils ont reçu emporter les effigies, les décors du parti. Et nous condamnons avec la dernière énergie cet acte de sabotage. À l'heure où nous vous parlons, la police nationale congolaise est à pied d'œuvre pour trouver ces inciviques afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice congolaise et qu'ils subissent de la rigueur de la loi. Et à cette même occasion, je demande à tous les militants et cadres du parti lumumbiste unifié et d'être calmes et sereins pendant cette période cruciale et électorale. Nous approchons lentement et sûrement vers la victoire finale. Qu'ils soient calmes.
Les organisations de la société civile réunies dans un groupe de travail sur la loi DDH, ONG nationale et internationale, ainsi que les réseaux de protection des défenseurs des droits de l'homme DDH, manifestent leur sentiment de joie et de gratitude à l'égard de tous ceux qui ont contribué à rendre effective la nouvelle loi relative à la protection et à la responsabilité du DDH en RDC. Au cours d'une conférence de presse organisée au Collège Boboto à Kinshasa samedi 28 octobre, ils se sont lancés dans une campagne de vulgarisation de la dite loi en vue de son appropriation et son implication. Quelle est l'importance de cette loi et quelle problématique vient-elle résoudre chez les défenseurs des droits de l'homme? Réponse avec Maître Henri Wemboloa et Abel Massoudi, respectivement président des AUDF ONG et coordonnateur du ReproDev. Ils sont au micro de Jeff Ngoy.
Parce que les défenseurs des droits de l'homme, vous le savez, partout dans le monde et surtout dans notre pays, qui est encore un État jeune en démocratie, sont exposés. Et cette loi, exactement, nous permet de pouvoir retrouver notre cadre de protection et de sécurité pour un exercice continu.
Sur la problématique que peut soulever par cette loi et son application. Les défenseurs des droits de l'homme, comme nous l'avons signalé, sont préparés pour réfléchir sur les points forts, les atouts et les faiblesses de la loi en vue d'envisager une meilleure application. Parce que ce qui est suivi, ce qui est visé à travers cette loi, c'est l'assainissement de l'environnement de travail des défenseurs des droits de l'homme.
José Nawej, journaliste et éditeur du quotidien Forum des As, a attiré sa révérence depuis hier samedi 28 octobre ici à Kinshasa, des suites d'un malaise cardiaque selon les médecins du centre médical de Kinshasa CMK qui ont constaté sa mort. Ceux qui l'ont connu affirment que c'était un journaliste passionné qui avait le souci de l'exigence et de la vérité des faits. C'est ce que témoigne par exemple à Radio Okapi ce dimanche Didier Kebongo, grand reporter au Forum des As. Didier Kebongo le dit à Paul Matendo.
J'ai rejoint la rédaction des Forums des As en mars 2012 en provenance de l'agence de presse SIFI à Grand Lac. Je découvre un patron de presse, mais surtout un journaliste passionné. Il avait le souci de l'exigence et de la vérité des faits. L'éthique était l'exigence de José Nawej. Dans le traitement de l'information, il insistait sur l'équilibre et la tempérance, la modération. Le journaliste et l'homme qu'il était savait que ses écrits devaient éclairer. Aussi détestait-il que l'on écrive vaille que vaille. Pour nous qui avons travaillé à ses côtés, José Nawej était un coéquipier, mais également un coach extraordinaire. Il bouclait tout le jour le journal avec nous. J'en garderai le souvenir d'un homme bienveillant et d'un journaliste rigoureux, passionné par la vie politique et les joutes d'idées. J'ai du mal à parler de lui au passé.
Radio Okapi présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et professionnelle de l'illustre disparu.
Actualité internationale.
Le Ghana a reçu samedi 105 véhicules blindés de l'Union européenne pour accroître sa lutte contre les menaces djihadistes. Les véhicules devraient être complétés par des équipements de surveillance aérienne et des systèmes de guerre électronique, selon Josep Borrell. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne s'est entretenu avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo à Accra. Le chef de l'État a réceptionné les engins. Plusieurs pays du Golfe de Guinée, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire ont déjà subi des attaques dans des régions frontalières, tandis que le Ghana a renforcé sa présence militaire le long de sa frontière nord. L'UE a précisé que l'appui au Ghana faisait partie d'une enveloppe de plus de 616 millions de dollars destinée à renforcer la défense et la sécurité de ces quatre pays côtiers du Golfe de Guinée. Et puis le Sénégal a acquis une collection de bijoux ayant appartenu à l'ancien président Léopold Sédar Senghor et à son épouse. Les objets se trouvaient dans leur maison en Normandie. Au nombre de 41, la collection comporte des bijoux et des décorations militaires de l'ex-chef d'État ainsi que divers autres objets comme des cadeaux diplomatiques. Elle comporte également des stylos plumes en or du poète.
L'invité.
Notre invitée est Fanny Minizi, directrice de l'ASBL Les Amis des Bonobos ABC. Elle s'exprime sur le prix TASC pour la conservation en Afrique qui vient de recevoir sa structure à Londres en Grande-Bretagne ce samedi. Fanny Minizi s'entretient à cette occasion avec Tati Mapoukou.
Bonjour Madame Fanny Minizi, votre réaction à chaud sur le prix TASC pour la conservation en Afrique qu'on vous a décerné dans le cadre de vos activités de réhabilitation et de réintégration des bonobos dans leur milieu naturel, dans les forêts du bassin du Congo.
Je suis très honorée et très fière d'avoir gagné le prix de TASC Award. Et je le prends pour mon staff, sans qui tout ça ne serait pas possible. On ne fait pas ça à la force juste de deux mains et d'un cerveau. C'est une équipe formidable qui m'accompagne. J'ai beaucoup de chance. Et j'aimerais aussi dédier ce prix à tous ceux qui travaillent pour la conservation et qui le font en silence. Donc c'est pour eux que je prends ce prix, pour mon staff et pour tous ceux qui font des efforts pour la conservation en silence, sans prix. Je suis la fille de Claudine André qui a recueilli le premier orphelin en 94 et avec lequel elle a commencé cette grande aventure. Donc je rencontre les bonobos grâce à ma maman qui, pendant des dizaines d'années, s'est battue pour créer ce centre où on est aujourd'hui, qui accueille les orphelins qui sont saisis par l'État congolais et qui sont victimes du trafic lié à la viande d'animaux sauvages. Et c'est elle aussi qui a fait la première réintroduction en milieu naturel de bonobos. Et donc, j'ai eu la chance, depuis mon jeune âge, de côtoyer les questions d'environnement et aussi les questions d'hommes liées à la protection de cet environnement-là. Aujourd'hui, je dirige l'association et donc je suis responsable des deux projets principaux de l'association qui sont le centre Lolaya Bonobo, ici à Kimwenza, où on accueille des orphelins, je vous le disais, et l'air protégé, à 800 km d'ici, dans la province de l'Équateur, dans le territoire de Bassin-Koussou. C'est une aire protégée de 50 000 hectares, dans laquelle les bonobos qui sont réhabilités ici partent pour vivre leur vie en pleine liberté, dans la nature, dans un lieu qui est protégé, avec les communautés locales.
Et ici, dans le site, comment est-ce que les activités sont organisées? Pouvez-vous nous présenter un peu le site qui nous accueille aujourd'hui pour cet entretien?
Alors, j'aurais beaucoup aimé vous emmener jusque à l'Équateur. Vous aurez eu le bonheur de voir à quel point notre pays est magnifique. Les eaux noires de l'Équateur, c'est quand même un des plus beaux endroits au monde. Mais Lola est pas mal, hein, on se défend. Ici, vous avez plusieurs types d'activités. D'abord, le cœur de l'activité, c'est la réhabilitation de ces orphelins. Et à la fois, veiller à ce qu'ils dépassent leur traumatisme. Donc il y a cette étape où les mamans et les vétérinaires font un travail extraordinaire pour que les petits aient juste envie de vivre. Ensuite, ils viennent derrière moi, on appelle ça l'école de la nature, où d'abord ils vont être avec d'autres petits orphelins qui viennent de passer de la quarantaine à la nurserie.
Dernière question, Madame Fanny. On vous a décerné le prix. Je serais tenté de dire que c'est les fruits des activités que ABC mène dans le cadre de la protection des bonobos. un appel pressant à lancer en l'intention des défenseurs de l'environnement, des écologistes.
Moi, je leur souhaite du courage, de l'optimisme, parce qu'on n'est pas dans ce métier-là quand on est pessimiste. On vit dans un état qui a la lourde responsabilité de préserver le dernier poumon de notre planète. Les forêts du bassin du Congo sont les derniers poumons, le dernier poumon de la planète Terre. On en avait deux, l'Amazonie et les forêts du bassin du Congo. L'Amazonie est déjà atteinte d'un sérieux cancer. Il faut qu'on fasse mieux avec les forêts du bassin du Congo. Il faut qu'on fasse mieux pour notre planète et donc le sort de chaque être humain est lié à la préservation qu'on va faire de ces forêts-là, mais qu'on ne le fasse pas au détriment des populations qui ont besoin de ces ressources-là. Et qu'on continue nos efforts pour que, ensemble, les acteurs de l'environnement, l'État et les communautés qui dépendent de ces espaces-là et à qui elles appartiennent, on travaille ensemble pour qu'on ait des espaces qui protègent la biodiversité, mais qui soient aussi un levier de développement pour ces communautés-là. Le sacrifice de la conservation ne doit pas être l'être humain.
Donc, comme votre dernier mot, merci beaucoup, Madame Fanny.
Je vous en prie.
Et voilà comment se referme cette édition de Journal sur Radio Okapi. Nous vous disons merci de l'avoir suivie.